Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
La liberté de la presse est-elle en péril au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Intimidation, enlèvement, assassinat, suspension de médias. Le travail de journaliste ou d'homme de médias est de plus en plus difficile dans le pays. La presse est-elle toujours libre au Mali? Comment les médias arrivent-ils à travailler dans un contexte de crise? Quelles sont les menaces qui pèsent sur les journalistes de nos jours? À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous recevons des responsables d'organisations de fêtières la presse. Il s'agit de Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse, Modibo Fofana, président de l'Association de professionnels de la presse en ligne Appel Mali, Mamoudou Bokoum, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Nous avons sollicité la participation de la haute autorité de la communication qui semble pourtant accorder son accord, mais qui malheureusement n'a pas répondu à notre dernière sollicitation. Je suis Branakilo Maïga, invité auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par les Nations Unies depuis 1993. C'est l'occasion pour nous de faire le point sur la liberté de la presse au Mali. Bandjougou Danté, la première question vous sera adressée. Qu'est-ce qui est prévu déjà demain pour célébrer la Journée de la liberté de la presse au Mali?
Merci Imran. Comme vous le savez, nous avons une tradition établie à la Maison de la presse depuis quelques années. C'est vrai, le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, mais depuis quelques années au Mali, nous avons décidé de consacrer une semaine entière aux activités de la journée mondiale et nous l'appelons Semaine nationale de la liberté de la presse. Bien évidemment, à l'occasion de cette semaine-là, le lancement va avoir lieu le 3 mai. C'est une activité classique qui est intégrée dans l'agenda de tout le monde. Il y aura ce qu'on appelle la cérémonie officielle qui implique l'ensemble des acteurs des médias, à commencer par le département de la communication, la haute autorité de la communication, les organisations professionnelles, les patrons de presse, les journalistes, tous les travailleurs des médias. Et cette matinée est surtout marquée par les discours officiels. Et ensuite, il y a la conférence inaugurale. En marge de cette première journée, il y aura des activités, des formations, les conférences, les échanges. Bref, pendant la semaine concernée, c'est le grand rassemblement à la Maison de la presse avec des activités diverses et variées. Et ces activités sont généralement organisées par les organisations professionnelles en collaboration avec leurs partenaires. Et la Maison de la presse joue un rôle d'accompagnement et de facilitation.
D'accord. Modibo Fofana, une semaine nationale de la presse, comme le dit Bandjougou Danté, répond-elle aux attentes de la presse malienne?
Ok, exactement comme le président vient de dire. Chez nous, c'est une semaine, pendant toute une semaine, c'est une réflexion. Nous menons des réflexions pour faire les bilans de l'année écoulée, généralement, surtout tout ce qui est relatif à la liberté de la presse, à l'éthique et déontologie journalistique, etc. Bon, est-ce que ça peut répondre à notre attente? Oui, parce que ça nous permet au moins entre nous d'échanger, ici au niveau de la Maison de la presse, et faire des propositions et des solutions. Bon, généralement, chaque année, ça nous permet également aussi de faire une commémoration, de rendre hommage à tous ceux qui ont perdu leur vie dans l'exercice de cette profession, et puis ceux qui ont disparu. Vous savez très bien que Birama Touré, que tout le monde sait, il a disparu il y a bientôt 7 ans, ou bien 8 ans, depuis 2016. On ne connaît pas sa nouvelle, et d'autres aussi sont pris en otage. Quand même, c'est une journée de commémoration, mais également, pendant cette semaine, on fait aussi un rappel à nos gouvernants de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un contexte particulier. Certains disent également que nous sommes dans une situation d'exception, mais dans ce contexte, la presse s'autocensure. Si la presse s'autocensure, on ne peut pas parler de la liberté de la presse. Je ne dirais pas que cette liberté de la presse est en danger, mais il y a une pression sur la tête des journalistes dans un contexte particulier du Mali.
D'accord. Bokoum, vous êtes responsable de 500 radios sur l'ensemble du territoire national, membre de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Que représente pour vous cette journée du 3 mai?
Merci beaucoup. C'est 451 radios. Je commence par rectifier cela. Cette journée, vous savez, c'est surtout le partage d'expériences qui va avoir lieu entre les aînés et les moins âgés qui viennent d'embrasser ce métier. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il s'agit pour nous vraiment de réfléchir profondément, voir comment garantir cette liberté que nous avons acquis, en tout cas surtout au Mali, au prix du sang des Maliens. Donc, c'est très important. Important pour nous cette journée de rappeler les uns et les autres de leur engagement, de leur devoir, de tout ce qu'ils doivent faire pour garantir cette liberté. Alors, pour les radios, surtout les radios qui sont dans les coins les plus reculés et très dangereux d'ailleurs en termes d'insécurité, l'exercice de ce métier s'avère très, très, très compliqué sur le terrain, à l'intérieur, surtout à l'intérieur du pays. Donc nous, à Radio, nous nous voyons concernés et nous pensons que cette journée peut permettre à chacun de son côté vraiment de se donner à fond pour permettre aux acteurs et actrices qui animent ce médium radio, tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays, de mieux exercer son métier. Donc c'est pour nous une journée extrêmement importante qui peut vraiment nous sauver, nous garantir et qui va nous sécuriser.
Bandjougou Dante, comment se porte la presse malienne aujourd'hui?
Je crois que dans un environnement qui est marqué par plus de 400 radios, par plus de 200 parutions, par une quarantaine de chaînes de télévision, caractérisé aussi par un nombre indéterminé de médias électroniques, cela n'est possible que dans un espace d'expression favorable. Oui, au Mali, nous avons une liberté d'expression. Oui, au Mali, nous avons la liberté de la presse. Mais seulement, il faut retenir que la liberté n'est jamais définitivement acquise. Elle doit être soutenue, elle doit être protégée, parce qu'elle est sujette à problème. Elle peut être menacée. Il y a des tentatives de remise en cause de cette liberté pour des raisons objectives ou subjectives. Donc, dans le pays, l'ensemble des textes réglementaires encourage la liberté d'expression, à commencer par la loi fondamentale de notre pays, qu'est la Constitution. Maintenant, dans la pratique, l'on peut être amené à violer les textes et à remettre en cause les principes élémentaires du respect de cette liberté-là. Donc, nous pouvons dire que dans notre pays, la liberté de la presse existe, mais elle doit être protégée, elle doit être soutenue, elle doit être encadrée.
Quand vous dites qu'il y a des tentatives de remise en cause de la liberté de la presse au Mali, vous faites référence à quoi?
Mais quand je dis qu'il y a des tentatives de remettre en cause la liberté de la presse, cela se manifeste à plusieurs niveaux. Premier niveau, on a créé des médias qu'un ami appelle des médias asymétriques. Autrement dit, quand on parle de guerre asymétrique, non, il y a des médias asymétriques qui ne respectent aucune règle d'éthique et de déontologie. Malheureusement, ces individus sont souvent préparés pour s'attaquer aux voix discordantes. Ça, c'est une menace assez grave. Aujourd'hui, les gens ont souvent peur de s'exprimer, de donner leur opinion ou de travailler convenablement dans leur rédaction parce qu'ils se disent que, généralement des journalistes, quand ils font correctement leur travail, d'autres personnes, se réclamant du monde des médias ou pas, sortent pour leur rendre la vie amère, à travers des injures graves, à travers des agressions frontales. Il y a la menace qui peut naître parfois des pouvoirs publics, la menace qui peut naître souvent des anonymes, et la menace qui peut venir souvent de ceux à travers lesquels la menace ne doit jamais venir. parce que ceux-ci sont censés être les garants même de la liberté d'expression, notamment l'instance de régulation, celle qui est censée assainir le secteur, celle qui est censée protéger le journaliste et son travail, mais qui est censée également de sanctionner le journaliste. Si la menace vient de ce côté-là, là, ça devient très grave.
Vous faites référence à la haute
autorité. Je fais référence à la
communication.
L'instance de régulation, c'est la HAC.
Nous allons en parler tout à l'heure. Modibo Fofana, estimez-vous qu'il y a des menaces aujourd'hui sur la liberté de la presse?
Et officiellement, non. Jusqu'à présent, on peut dire que les autorités de la transition n'ont posé aucun acte officiellement pour menacer la liberté de la presse. Mais dans la pratique, il y a une pression sournoise sur la liberté de la presse. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est une liberté de presse qui est sous surveillance. Dans un contexte actuel, les journalistes s'autocensurent. Il y a deux facteurs. Il y a des sujets que les journalistes ne peuvent pas aborder parce que personne ne les a dit de ne pas traiter ces sujets, mais au regard du contexte, ils s'autocensurent. Et puis également, il y a le contexte, il y a l'environnement économique aussi qui n'est pas favorable aux médias. Les journalistes cherchent à se contenir, souvent de ne pas toucher à certains sujets pour ne pas perdre de contrat. Voilà des facteurs aujourd'hui qui font de telle sorte que les journalistes s'autocensurent. Mais dans un pays où l'insécurité se conjugue à l'instabilité politique, cela compromet ce qu'on appelle la sécurité des journalistes. Également, ça compromet aussi à l'accès à l'information. Brièvement, on peut dire aujourd'hui que la liberté de presse est sous pression, est sous surveillance, et les journalistes s'autocensurent. Et ça met un peu cette liberté de presse est un peu en danger.
Quand le président de la Maison de la Presse disait tout à l'heure que la menace peut venir du pouvoir public, est-ce que vous partagez cette analyse?
Bon, ça, c'est une évidence. Hein? C'est une évidence. Et récemment, vous avez vu qu'il y a eu un communiqué à caractère liberticide qui demandait aux journalistes de ne pas couvrir les activités politiques. Moi, je suis sûr et certain qu'ils ont manqué de la pédagogie pour s'adresser à cette profession noble. Bon, des actions comme ça également, on peut résumer qu'il y a une menace qui plane sur la liberté de la presse, même si ce n'est pas officiel.
D'accord. Les radios également sont victimes des menaces, des violations?
Elles sont les plus grandes victimes d'ailleurs, comme je l'ai dit, vu leur présence sur la quasi-totalité du territoire. Ça se trouve à deux, trois niveaux. Le premier niveau, toutes les parties belligérantes de cette crise planent leurs menaces sur les radios, en tout cas à l'intérieur du pays, surtout au Mali plutôt. D'abord, il y a la pression des pouvoirs publics. L'autocensure, c'est plus grave que la censure elle-même, parce que on est en train de se priver de nos propres droits. Donc ça, c'est plus grave, parce que pourquoi on le fait? Parce que chacun connaît l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Donc c'est très compliqué pour nous de toucher. Modibo en a fait qu'à tout de suite d'aborder un certain nombre de sujets. Souvent on le fait pour le respect de l'éthique, souvent on le fait par peur de faire face aux instruments juridiques. Il y a cette pression au niveau des pouvoirs publics. Deuxièmement, il y a les groupes armés qui sont là, les détenteurs il y a les milices d'un côté, les groupes de l'autre côté. Ces deux groupes aussi constituent une menace parce qu'ils limitent le mouvement des acteurs de médias qui sont sur le terrain. Donc, il y a cette pression. Ensuite, il y a la pression sociale qui est là, parce qu'il y a des individus, on ne peut pas avoir une voix discordante à leur soutien. C'est un peu compliqué. Aujourd'hui, quand vous regardez l'environnement médiatique, le paysage médiatique aujourd'hui, le paysage du domaine de l'information aujourd'hui, toute personne ou tout journaliste qui veut aller à contre-courant de un certain nombre d'idées, il va être exposé à la vindicte d'un certain, on ne dirait pas le peuple, d'un certain nombre d'individus qui sont là pour vraiment pour contribuer à nous mettre la pression davantage. Donc, les radios, à notre niveau, c'est plus compliqué, à mon sens, que les autres médias, parce que nous sommes non seulement plus proches des populations et des populations qui difficilement comprennent souvent l'analyse que les hommes des médias apportent pour éclairer l'antenne des citoyens. Beaucoup de gens ne comprennent pas le sens d'une analyse et ils assimilent ça à être contre ou à être soutien de X ou de Y. Et cette pression, vraiment, ça rend difficile, hein, très très difficile d'ailleurs, le travail des hommes de médias qui sont sur le terrain. Donc nous, on souffre triplement, quoi. Donc c'est un peu compliqué.
Au regard de tout ce que vous venez d'affirmer, comment les radios parviennent à supporter ces différentes pressions du pouvoir public et des hommes armés?
Vous savez, il faut être très intelligent dans tout ce que on fait aujourd'hui. Les radios, c'est vrai, nous appartenons à la communauté. Il y en a mille et un sujets qu'on peut traiter. Il y a l'approche qui est importante. Il faut savoir, il faut connaître ton environnement, s'intéresser à l'actualité de proximité, s'intéresser aux difficultés auxquelles font face les populations dans lesquelles ces médias-là sont implantés. Donc, il y a beaucoup d'astuces qui nous permet vraiment d'éviter de toucher un certain nombre de sujets. C'est ça le problème, parce qu'il y a la situation institutionnelle et politique intéresse aussi la population, mais nous nous mettons la pression, nous nous mettons vraiment toute la pression pour éviter de toucher un certain nombre de sujets. Des deux choses l'une, soit parce qu'aujourd'hui il y a l'interaction entre les radios et les citoyens. Si on veut traiter un sujet en interactivité, les dérives vraiment bonjour les dégâts. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à même insulter sur les antennes. C'est très compliqué. Donc nous, l'approche qu'on a eue, on a essayé de développer de faire le choix d'un certain nombre de sujets que nous devons traiter à l'intérieur. Donc, on doit donner toutes les informations aux populations, mais on a décidé de faire le choix de traiter un certain nombre de sujets et de laisser tomber d'autres sujets pour ne pas faire face à des difficultés qui peuvent nous compromettre ou qui peuvent nous créer un certain nombre de problèmes.
Président Danté, des cas de violation de la liberté de la presse vous ont-elles été rapportés?
Bon, nous avons un système de monitoring à la Maison de la Presse qui consiste à recenser des cas de violation de la liberté de la presse qui sont constatés. Il faut reconnaître que les cas les plus fréquents se rencontrent dans les zones d'insécurité où il y a parfois la présence de différents groupes armés. Et là, à ce niveau, où parfois la présence de l'État n'est pas véritablement réelle. Donc dans ces zones-là, des cas de violation peuvent être constatés. Maintenant, dans les centres urbains, principalement à Bamako, qui englobe d'ailleurs l'essentiel de l'activité médiatique, ce qui a été dit par mes deux frères, notamment, la manière tacite d'exercer la pression est sentie sans pouvoir le prouver. Les menaces, les intimidations, les appels anonymes sont là, l'autocensure. Mais en toute honnêteté, il faut reconnaître que nous évoluons dans un environnement où le principe de la liberté de la presse et de la liberté d'expression n'est pas remis en cause. Le principe n'est pas remis en cause, mais il y a des tentatives de musulmans qui se font tous les jours.
Qu'est-ce qui explique ces tentatives-là sur la presse malienne?
Bon, honnêtement, on ne peut pas obliger quelqu'un qui n'est pas démocrate d'être démocrate. Les tentatives de musulmans visent surtout à cacher les mauvais comportements, à protéger les mauvais comportements cachés. Et quand on veut empêcher les journalistes de toucher à certains sujets, quand on veut empêcher les journalistes de faire certaines révélations, et naturellement, ça ne va pas plaire à beaucoup, qu'ils soient du monde politique ou pas. qu'ils soient du monde institutionnel ou pas. Ça, c'est des réalités qu'il faut se dire. Maintenant, il y a un cas des cas de conscience aussi. Un pays, nous ne sommes pas un pays normal. Et on a beau être journaliste indépendant, il faut être d'abord d'un pays. Et nous sommes maliens avant d'être journalistes. Ça, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de le dire. On est maliens avant d'être journalistes. Maintenant, dans un pays en guerre où des enfants de ce pays vont donner leur poitrine aux balles pour protéger les autres, ce n'est pas le moment de procéder à des activités de démoralisation de cette activité ou de tisser une certaine complicité avec des puissances ennemies pour saper son propre pays. Cela est inadmissible. Cela est inadmissible. Nous considérons que tous les hommes des médias sont sincères, sont de bonne foi, font un travail de qualité, mais nous invitons les uns et les autres à la responsabilité et à la prise de conscience en comprenant que les enjeux qui nous entourent sont parfois au-delà de nos petites personnes.
Je prends votre mot, Guillaume, quand vous dites on empêche les journalistes à toucher à certains sujets. Est-ce que la presse malienne est suffisamment professionnelle pour toucher à certains sujets dont vous parlez?
Bon, je pense que j'ai l'habitude de le dire. Dans cette presse malienne, il y a l'excellent, le très bon, le bon, le mauvais et le franchement mauvais.
C'est-à-dire?
Ça veut dire que de la même manière qu'il y a des gens qui font correctement le travail technique, ils sont dotés également d'une conscience professionnelle extraordinaire. Cohabitent également le mauvais travail et l'inconscience professionnelle. Et maintenant, ce qu'il faut dire, sans ambiguïté, on peut être fort techniquement et être moralement mauvais. On peut être moralement bon et être parfois techniquement nul. Et le bon journaliste suppose la réunion des deux. Le techniquement bon et moralement. Le moralement irréprochable.
Ces différentes qualités, on les trouve où?
On les trouve dans la presse malienne. Il y a des hommes et des femmes de valeur qui sont dans
ce monde. La presse écrite, la presse
radio, dans tous les médias. La presse malienne est un ensemble. C'est un ensemble. Presse électronique, presse audiovisuelle et presse écrite, presse digitale, cohabitent. Et le Mali a cette particularité-là également, où vous trouverez une personne qui est à la fois presse écrite, presse digitale, et presse audiovisuelle.
Modibo, quand j'ai posé la question tout de suite au président, à savoir si la presse malienne est suffisamment professionnelle pour toucher à certains sujets, vous avez dit oui.
Tout à fait. Exactement, je vais aromatiser ce qu'il a dit. Dans toutes les corporations, c'est les débats partout. Généralement, on voit certains cherchent les poux sur les têtes rasées. Et dans la presse malienne, il y a des brebis galeuses. Mais il y a des bons journalistes et il y a des médias qui donnent de bons contenus. Moi, j'ai eu la chance de faire les sous-régions comme mes deux présidents. Et si on fait une comparaison par rapport à la sous-région, sur le plan quantitatif, je pense qu'on a déjà relevé les défis. Certes, sur le plan qualitatif, on doit quand même essayer de voir comment on peut construire certaines choses qui n'existent pas. Mais il y a des bons journalistes qui sont là, il y a des bons médias qui sont là, qui ont des bons contenus. Et comme il y a des mauvais journalistes aussi, mais comme c'est la maison, on ne cesse pas de faire des formations, des renforcements des capacités, de faire des mises à niveau au niveau de la corporation. Et certes, l'avènement des réseaux sociaux et l'Internet, je suis d'accord avec vous, a banalisé la profession journalistique. Et beaucoup aujourd'hui se posent la question, est-ce qu'il faut redéfinir aujourd'hui le journalisme? Moi, je dirais non. Le journalisme doit rester intact. Mais les journalistes doivent faire ce qu'on appelle un travail de qualité et ils doivent se différencier des autres par la qualité de son travail. C'est pour vous dire, aujourd'hui au Mali, on a des bons journalistes, car moi-même j'ai été invité à des événements à la Syrie. Je me suis rendu compte que ce sont nos propres journalistes qui sont nos formateurs dans les pays de la sous-région. Et cela signifie qu'on a des bonnes graines chez nous au Mali.
La presse malienne connaît-elle ses limites ou elle se croit permis, elle se croit tout permis au regard de son statut de quatrième pouvoir?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et comme on l'a dit, nous sommes conscients de. C'est ça qu'on appelle la conscience professionnelle, que M. Dante vient de dire. Dans l'éthique et déontologie journalistique. C'est pourquoi au niveau de chaque association, il y a des commissions d'éthique et déontologie. Précisément au niveau des Appels Mali, nous on mise beaucoup sur la commission d'éthique et déontologie. Ça arrive souvent que des journalistes fassent des dérapages déontologiques. Et avec ces dérapages, il y a des commissions de pairs qui sont là pour les rappeler à l'ordre. C'est pourquoi pendant cette semaine de la liberté de la presse, j'ai dit, c'est une occasion pour nous de faire souvent les bilans et de se remettre en cause, de voir réellement qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. La liberté de la presse ne signifie pas que, avec les statuts de notre loi spécifique, cela ne te donne pas le droit de dire tout. Et on connaît notre limite. Et c'est pourquoi on se conforme à l'éthique et déontologie. Tout journaliste professionnel sait que dans un contexte comme le Mali, même s'il a vérifié des informations, il a trouvé que cette information est bonne, est vérifiée, il a traité, mais à cause de l'éthique, il s'abstient de ne pas publier. Parce que si la publication de cet article peut nuire à la cohésion sociale, ça peut nuire les vivre ensemble, ça peut même stabiliser les pays, l'éthique impose aux journalistes de ne pas publier. C'est ça qu'on appelle la conscience professionnelle. Et notre statut ne nous permet pas de dire tout. Et raison pour laquelle on avait dit une fois qu'on n'a pas besoin de dire à un journaliste d'être patriote, parce qu'on connaît notre limite. Et puis, Dante, il a si bien dit, le seul pays qui nous appartient, c'est le Mali. Aucun journaliste professionnel ne cherche à déstabiliser son pays. Tu vois où? Si tu mélanges ton pays, comme le disent les Ivoiriens, tu vois où? Et cette conscience professionnelle la responsabilité nous rappelle ici et nous invite également de s'abstenir à dire certaines choses dans un contexte particulier comme le Mali. Et c'est pourquoi nous, on appelle un bon journaliste professionnel est un bon patriote plus que tout le monde. On n'a pas besoin de dire que je suis patriote, mais à travers tes faits, tes écrits, on doit mesurer le patriotisme de ces journalistes.
Le président de la presse en ligne disait tout à l'heure qu'il y a certains sujets, même si le journaliste veut les traiter, quand il se rappelle de l'éthique et de la déontologie, il se retient. Mais au niveau des radios privées, des radios que vous êtes, auxquelles vous êtes responsable, tout s'est dit, tout se raconte sans aucun respect de l'éthique et de la déontologie. Qu'est-ce qui explique cela?
Pas du tout. Et chez nous, c'est ce que j'ai dit. Nous appartenons, nous sommes comme ancrés dans une communauté, au sein plutôt d'une communauté. Vous savez, le traitement des sujets a besoin d'un certain nombre de critères, notamment d'abord la vérification, c'est de la véracité de l'information. Dans la circonscription dans laquelle on évolue, vous vérifiez une information et vous trouvez que c'est une vraie information, toutes les sources sont concordantes, qu'elle est vérifiée, elle peut être diffusée. Mais cette information diffusée-là, toi, tu te trouves dans une communauté. Si tu diffuses cette information et que ça peut compromettre un peu, ça peut créer une mésentente dans cette même communauté, à quoi bon de diffuser cette information? C'est-à-dire, comme on l'a dit, hein, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Je vais bondir par rapport à l'existence du journalisme, journaliste de qualité au Mali. Aujourd'hui, il faut aller voir, à ma connaissance, je parle sous les réserves du président Dante, il n'y a pas un journaliste en prison pour avoir tenu un quelconque, ou pour avoir écrit sur une quelconque nouvelle dans le cadre de son travail. Je n'en connais pas. Un journaliste qui a été en prison. Donc, ça veut dire que nous sommes respectables de l'éthique et de la déontologie. Et c'est ça le gage d'un journalisme professionnel. Aujourd'hui, au Mali, Aucun journaliste n'est inquiété en prison aujourd'hui. Mais ce qu'on a dit, ce qui est réel, ça c'est la menace. Donc il faut se prévenir. La menace, elle existe. La pression, elle existe. Elle existe. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut vraiment que chacun respecte son engagement pour que cette liberté de la presse, comme je l'ai dit, acquise au sacrifice ultime, hein, pour que cette liberté de la presse et la liberté d'expression demeure au Mali, afin que les gens puissent donner leur point de vue sur des sujets concernant la vie de leur nation. Au niveau des radios, je crois que les radios sont, c'est-à-dire surtout les radios de proximité, tu n'as même pas le choix, hein, d'éviter de toucher un certain nombre de sujets toi-même. Et c'est que, contrairement à ce que les gens pensent, les radios ne disent pas tout. Non. Elles respectent ces codes déontologiques, c'est ça qui nous guide. En plus de ce code, c'est-à-dire tellement que nous voulons que ce métier soit professionnalisé, nous avons élaboré une charte d'antenne spéciale qui s'ajoute au code et éthique de la presse qui existe déjà. Donc cette charte d'antenne nous guide comment se conduire à l'antenne, que ça soit à la télé ou bien à la radio. Je crois qu'on a élaboré le document avec l'appui de la Fondation Hirondelle, de la Haute Autorité de la Communication et du ministère de la Communication et de l'Économie Numérique. C'est pour vous dire combien nous tenons au respect des principes de ce métier-là. Donc, cette charte d'antenne ajoutée au code d'éthique et de la déontologie, moi, je crois qu'une fois que les uns et les autres prennent ça pour référence, cela va de soi que nous restons toujours des journalistes professionnels au Mali. Ça, c'est évident. Donc, les radios, quel qu'en soit le média, pas que les radios seulement, quel qu'en soit les médias, et ça c'est dans toutes les professions. Dans toutes les professions, il y a ce qu'on appelle le code d'éthique. Ça existe, mais autant il y a de bons et de mauvais journalistes au Mali, autant il y a de bons et de mauvais médecins ou pharmaciens ou chauffeurs ou quoi que ce soit encore. Ça existe partout. Donc c'est à nous de voir et de recycler les hommes et les femmes qui évoluent dans ce secteur, de renforcer leurs compétences de temps à autre et de les rappeler les principes qui guident vraiment ce métier-là.
D'accord. La Haute Autorité de la Communication que nous avons sollicité sa présence, qui n'a pas souhaité venir, a enjoint les médias à ne pas couvrir les activités des partis politiques suspendus par les autorités. Comment vous avez apprécié cette décision de la Haute Autorité de la Communication ?
Nous l'avons mal appréciée, nous l'avons dénoncée et nous continuerons à dénoncer ce communiqué de la Haute Autorité et ce communiqué en violation de 2 à 3 articles du Code d'éthique et de la déontologie. Parmi nos devoirs, on a dit le journaliste peut faire appel à toute personne ressource qui est à mesure vraiment de donner son point de vue ou d'apporter une analyse sur une actualité locale, ou nationale ou internationale. Je pense que tous les Maliens sont inclus. Donc, si vous demandez à un journaliste d'épargner une partie ou d'épargner un élément de ce groupe-là, ça veut dire que vous voulez nous demander de violer notre propre code d'éthique et de la déontologie. Donc, il y en a tellement de principes. Et on a dit aussi que le journaliste a droit à accéder à toutes les informations, à part ceux qui compromettent à la sécurité d'État. Je pense que les textes sont clairs. Les textes sont clairs et moi, à mon sens, c'est la Haute Autorité de la Communication qui devrait se diriger contre toute personne qui avait brandi cette menace sur les médias. Parce qu'elle est là non seulement à réguler les médias, mais à nous protéger. Je crois que ça fait partie de sa mission. Donc, elle est sortie de sa mission, on le dit, on le maintient. Ça ne veut pas dire que nous sommes en train d'enfreindre à la loi. Non, pas du tout. Au contraire, c'est elle qui veut nous obliger à violer notre code. Et ça, c'est impossible. Donc, nous désolidarisons. Nous ne sommes même pas solidaires. Nous condamnons avec la dernière rigueur cette attitude de la Haute Autorité de la Communication et nous maintenons notre position et nous ne laissons jamais personne venir mettre en cause cette liberté d'expression et de la liberté de la presse que le Mali a déjà acquis.
D'accord. Président, vous avez déjà commencé avec cette décision de la Haute Autorité de la Communication. Quelle appréciation faites-vous de cette décision ?
Bon, je crois quand même que notre appréciation, elle est déjà connue. Nous l'avons exprimée, nous l'avons écrite, nous l'avons partagée, nous l'avons diffusée. Et si vous me permettez, franchement, je préfère ne plus commenter ce qui s'est passé. Peut-être dire aux médias la position qui est de ne pas respecter ces communiqués. C'est ce principe qui est arrêté et nous allons continuer avec ce principe-là.
Et depuis lors, quel rapport gardez-vous avec la haute autorité de
nous
la communication ?
Nous n'avons aucun problème avec la haute autorité de la communication, aucun problème. Ils ont produit un communiqué et nous avons dit que nous ne reconnaissons pas ce communiqué. Et je pense que cela est compris parce que personne n'a été sanctionné pour ça. Parce qu'il n'y a pas à sanctionner pour ça. Et les gens continuent à faire leur travail. Donc franchement, avec tous les respects que j'ai pour vous, si on peut éviter cette question, qui, à notre sens, n'a plus sa raison d'être, quoi, à mon avis.
Mon avis. On dit dans un régime d'exception, on est dans un régime d'exception, comme on le dit, dans un régime d'exception, on doit prendre des dispositions exceptionnelles. Est-ce que la presse malienne en tient
compte ?
S'il
vous plaît, vous allez m'obliger à parler. Et, honnêtement, ce qui s'est passé, il y a eu de la manipulation. Quelle manipulation ? Un gouvernement a pris un décret en bonne et due forme. Ce décret s'intéresse aux partis politiques. Nous ne sommes ni visés ni concernés. On peut être visé par une mesure, mais d'autres sont concernés. Comme on peut être concerné par une mesure et ne pas être visé. Dans le cas précis, les médias ne sont ni visés ni concernés. Quand je parle de visés et concernés, par exemple, les partis qui peuvent organiser des activités à l'encontre des activités de la transition peuvent être visés par les décrets. Mais même les partis amis à la transition sont concernés par la mesure. C'est là les visés et les concernés prennent tout son sens. Le nom des médias n'a pas été cité par le gouvernement dans son décret. C'est l'instance de régulation qui a produit son communiqué pour interdire aux médias ce qui n'a même pas été fait. C'est là, dans la forme, il y a problème. Dans le fond, il y a problème. Là où les gens ont été choqués, c'est que c'est le communiqué qui a été balancé sur les réseaux sociaux en créant la confusion et le doute dans l'esprit du citoyen lambda qui, aujourd'hui, fait la confusion déjà entre le désordre qui se trouve sur Internet et la presse classique. Donc, l'instance de régulation qui est censée protéger la presse ne l'a pas fait, ne l'a pas respectée pour n'avoir pas discuté avec elle d'abord et trouver les éléments de langage nécessaires pour la bonne application d'une mesure ou pour même avoir envoyé une correspondance à des partenaires. Nous sommes des partenaires pour que nous nous comprenions. Et ce que les gens ne doivent pas oublier, la hack ne se situe pas en dehors de nous. La hack, c'est nous, là. C'est nous-mêmes, la hack. C'est nous-mêmes qui avons nos représentants là-bas.
D'accord.
Vous comprenez ? Les gens que nous avons désignés. Mais ce qui nous paraît inadmissible, quand des individus fabriqués sont utilisés pour aller porter un message dont ils ne comprennent même pas la teneur, c'est parce que, quelque part, l'instance de régulation a voulu livrer la presse aux réseaux sociaux, comme il en est de coutume, malheureusement, dans notre pays de plus en plus. On livre des individus, des personnalités, et on commence à livrer des structures aux réseaux sociaux. Maintenant, on veut livrer la presse à des individus de mauvaise foi, pour tromper l'opinion. C'est là où il y a la révolte. C'est pourquoi nous avons dit que c'est que la HAC a fait.
Selon une source au niveau de la HAC aurait envoyé d'abord cette note aux responsables de la presse avant diffusion sur les réseaux sociaux.
Bon, comme vous dites, selon une source au niveau de la presse, jusqu'à l'heure où je te parle, en tout cas, moi, maison de la presse, je n'ai pas reçu la copie de ce communiqué.
D'accord.
Maintenant, c'est pourquoi nous avons dit clairement que ce qui s'est passé, les deux autres sont là, peuvent confirmer s'ils ont reçu la correspondance ou pas. En tout cas, nous, on ne l'a pas reçu.
D'accord.
Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est pourquoi nous avons dit clairement que ce qui s'est passé, soit c'est dû à un zèle illimité, soit à une ignorance ou à un désir totalitaire. Ça ne peut pas se situer en dehors de ces trois éléments.
On me fait signe qu'il nous reste 5 minutes. Nous allons consacrer les 5 minutes aux autres questions de cette émission. Quelle explication à la multiplication des enlèvements et disparitions des journalistes en novembre 2023? On se rappelle que Abdelaziz Gebrila, journaliste à la radio Nata de Labzanga, a été tué par des hommes armés, tandis que deux de ses confrères, Salek Ag Zidou Dizaidan et Mustapha Kone, respectivement directeur et animateur de Radio Coton dans Sango, ont été enlevés.
Bon, comme on a déjà évoqué ça, c'est le contexte sécuritaire au Mali. Hein. Dans un pays, comme je t'avais dit, si l'insécurité se conjugue à l'instabilité institutionnelle, cela compromet forcément la sécurité des journalistes. Également, en dehors de Bamako, même à Bamako, ceux qui sont là, c'est vrai, ils n'ont pas été enlevés directement, mais ils reçoivent régulièrement des intimidations, des harcèlements, ce qui explique également l'autocensure. À mon avis, c'est dû au contexte du pays, parce qu'on est dans une situation d'exception. Notre liberté de la presse, en réalité, d'une part, est en danger, d'une part, directement et indirectement, parce que l'environnement n'est même pas aujourd'hui favorable à l'exercice de la liberté de la presse, surtout ceux qui sont en dehors de Bamako, des zones qui sont occupées par les groupes armés. Soit tu te conformes à leurs lois, ou bien on t'enlève, ou bien souvent tu es éliminé. Dans les jargons militaires, tu es neutralisé.
À cette liste, j'ajoute le cas du journaliste Malik Konaté, obligé de s'exiler. N'est-ce pas des signaux inquiétants?
Bon, honnêtement, le cas de Malik, ça a été l'objet des débats ici, lorsqu'il est parti. Parce qu'au départ, Malik a quitté le Mali, c'était pour une mission à Dakar. C'est après, il n'est plus revenu. Certes, dans une situation exception comme ça, beaucoup quand même pensent que les voix discordantes sont éteintes. Peut-être le cas de Malik est dans cette situation. Mais au départ, la situation de Malik, il était parti pour une mission et après il n'est plus revenu. C'est qu'on a été informé. Mais on n'a pas des éléments tangibles que réellement Malik a été contraint d'aller à l'extérieur. On n'a pas des éléments concrets. Ce qu'on nous a rapporté au niveau de ses proches collaborateurs.
D'accord. Vous voyez. Président, avons-nous des signes de vie de Zaidan et de Mustapha Kone?
Pas du tout. Ces deux s'ajoutent à ceux de Hamadou Niandi Bouli et de Moussa Banane Diko, plus Daouda Kone de Souban, je crois. C'est Daouda Kone, non? C'est Souri Kone de Souban. Donc, c'est pour vous dire qu'on a assez de d'hommes de radio qui sont vraiment avec leurs ravisseurs. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a aucune nouvelle de tous ceux-là qui sont disparus, en tout cas à l'intérieur du pays. Donc c'est très inquiétant. C'est ce que je dis. On ne peut pas exercer le travail de journaliste sans pour autant se mouvoir. Le journaliste, c'est un homme de terrain. C'est comme un militaire. Tu ne peux pas faire la guerre étant dans ton camp. Il faut sortir, aller sur le terrain. Il n'y a pas de journaliste si tu ne pars pas sur le terrain. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est très compliqué d'exercer ce métier sur le terrain, surtout à l'intérieur du pays. C'est des zones très, très, très dangereuses. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas de ces nouvelles et on prie. C'est le lieu d'exhorter, encore une fois, de réitérer auprès de hautes autorités, de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse retrouver nos camarades disparus.
D'accord. Président, comment rétablir la confiance entre les gouvernants et les journalistes?
Bon, je crois quand même que il n'y a pas la rupture de confiance entre nous, seulement il y a une méfiance. Et cette méfiance doit consister pour tout le monde à faire en sorte que le partenariat existe et que le partenariat demeure. Nous sommes tous les enfants du pays et chacun de nous est sensible aux difficultés du pays. C'est extrêmement important. Et on ne peut pas remplacer la liberté de la presse, la liberté d'expression par autre chose. Ceux qui sont les gouvernants du pays, ceux qui ont une parcelle, un bout de pouvoir, chacun doit comprendre que la liberté de la presse protège tout le monde. et ça intéresse tout le monde. Donc cela est extrêmement important. Les médias, à travers leurs responsables des organisations professionnelles, restent des interlocuteurs valables pour trouver des solutions aux problèmes qui assaillent notre société.
Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue. On me fait signe que nous n'avons plus de temps, qui portait sur la liberté de la presse est-elle péril au Mali. Nous étions avec des responsables d'organisations de fêtières de la presse. Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse. Modibo Fafana, président de l'Association des professionnels de la presse en ligne au Mali, Appel Mali. Mamadou Bokoum, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, et nous avons sollicité la présence de la haute autorité de la communication, mais notre sollicitation est restée sans réponse. Je suis Imran Akil Omaïga, merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.